Bonjour tout le monde. Donc à la base, le titre était Nuclear Mountains, Mountain Beauty and Radioactive Anguish in the American West. Donc j'ai traduit ça par montagne nucléaire, beauté montagnarde et angoisse radioactive dans l'Ouest américain. C'est une recherche qui est à un stade embryonnaire. C'est inspiré de discussions qu'on a eues pendant ma soutenance de thèse sur l'impact du nucléaire au Nouveau-Mexique. Je demande votre indulgence parce que c'est le tout début de quelque chose. En introduction, le complexe nucléaire américain s'est développé dans tout le pays pendant la Deuxième Guerre mondiale et ensuite, à la suite du projet Manhattan, mais il a eu un impact particulier sur l'Ouest américain. C'est une région qui doit en partie son essor de l'après-guerre au développement de ses installations militaires et nucléaires. Donc ces sites ont un point en commun, en fait certains de ces sites ont un point en commun, ils sont localisés dans des espaces montagnards. Si on examine les effets du complexe militaire et nucléaire et qu'on les associe avec les images de ces montagnes, des images touristiques, en fait on voit l'émergence d'un espèce de paradoxe entre la beauté, la sérénité de ces paysages et l'angoisse produite autour de ces sites par la présence du nucléaire. Donc on observe un contraste assez marqué entre la beauté scénique, l'imagerie montagnarde d'un côté, et de l'autre côté le danger assez terrifiant qu'elle renferme ou qu'elle représente. La guerre froide et l'ère nucléaire ont en fait créé un nouvel usage de l'espace montagnard comme une cachette pour la technologie la plus anxiogène de l'humanité. Je m'intéresse à cette antinomie que ces sites représentent. Lorsque le spirituel rencontre la technologie, lorsque la beauté des images se heurte aux dangers qui défient l'espace, le temps, lorsque aussi les touristes sont confrontés à la radioactivité en faisant de la randonnée dans les canyons. L'impact psychologique est en fait d'autant plus fascinant que la radioactivité est inodore, invisible, et qu'elle s'immisce dans les sols et se répand dans les airs. Donc ça transforme ces espaces en une espèce de paysage unique et assez menaçant, donc ce que j'ai appelé des montagnes nucléaires. Je vais vous présenter six sites, trois au Nouveau-Mexique, un en Colorado, un dans Nevada et un en Arizona. Et on va commencer tout de suite avec un premier site à Los Alamos, donc au Nouveau-Mexique. C'était le premier laboratoire nucléaire au monde. Le Nouveau-Mexique a été surnommé le berceau de l'ère atomique hein, parce que la bombe atomique a été construite et testée dans l'État. Depuis, il y a toute une industrie nucléaire qui s'est développée. J'ai pas le temps d'expliquer ici, mais en tout cas, si le Nouveau-Mexique devenait indépendant, se séparait des États-Unis, ce serait la troisième puissance nucléaire mondiale. Juste pour vous donner une petite idée. Deuxièmement, on trouve au Nouveau-Mexique parmi les montagnes les plus escarpées du pays, qui recouvrent 4 cinquièmes de l'État, qui donc sont plus à une altitude supérieure à 1250 mètres, donc comme on voit sur la carte. Et le premier laboratoire atomique a été installé dans le massif des Hemes, sur une mesa, c'est-à-dire une montagne plate bordée de falaises, dans l'hiver 1942-43. Ce lieu est devenu le Los Alamos National Laboratories, qui a colonisé tout le plateau Pajarito. Il est devenu une vraie. Et en même temps, cet endroit est aussi une vraie attraction touristique, grâce à ses activités de loisirs, de superbes panoramas et des merveilles archéologiques, autour de la ville entreprise de Los Alamos. Des interviews des employés des laboratoires précisent que beaucoup de scientifiques d'autres États ont été attirés par cet environnement très plaisant. Ensuite, on reste au Nouveau-Mexique, mais un petit peu plus au sud, vers Albuquerque, dans le même État, pour parler de Sandia. Donc, pendant la guerre froide, la production d'un énorme arsenal nécessita de trouver où stocker ces ogives. Après que la division Z donc de Los Alamos soit transférée de la base vers la base Sandia, au pied des montagnes, donc les montagnes Sandia, en 1947, la production, les essais et l'assemblage des composants des armes nucléaires a été confié à la Sandia Corporation, et ce lieu est devenu les Sandia National Laboratories. C'est le deuxième employeur de l'État et la première chaîne d'assemblage nucléaire au monde. Donc, fait intéressant, les montagnes Manzanou aussi, qui sont au sud-est de la ville d'Albuquerque, ont été utilisées pour stocker des armes de destruction massive qui étaient produites à Sandia. Ce site est à 20 km du Sandia Peak Tramway, donc le téléphérique le plus long du pays, et le fameux La Luce Trail. Donc, ce sont deux activités parmi les plus courues pour les touristes à Albuquerque. Troisième site, toujours au Nouveau-Mexique, hein, parce que bon, c'est ce que je connais le mieux, le Mount Taylor. Donc, en plus de ça, les montagnes mexicaines renferment la ressource qui est devenue le minerai le plus précieux avec l'ère nucléaire, c'est-à-dire l'uranium, le Mount Taylor, et le point culminant des San Mateo et de la Cibolo National Forest, donc un volcan sacré pour les nations Navajo et Pueblo. Il se situe sur le plus grand gisement d'uranium du pays et porte encore le stigmate des années d'exploitation minière à la mine ouverte de Jackpot Paguate sur les terres de Laguna Pueblo et de l'usine de traitement de KMLG à Grants, dont vous avez là une petite photo avec la montagne à l'arrière-plan. Donc Tsusil, je ne sais pas si je le prononce très bien, mais qui s'appelle aussi Blue Bead ou Turquoise Mountains, et la frontière sud de la terre des Navajo, qui s'appelle Dinta, et il tient une place assez importante dans leur cérémonie, dans leur tradition. C'est un lieu de pèlerinage pour les Indiens Navajo et Pueblo, pour les Acomal, Daguna, Zuni et Hopi. Donc bien que donc je développerai un petit peu cette question un peu plus loin. Alors, on va voyager encore un petit peu. Alors, bien que la Grants Uranium Belt ici soit l'un des lieux les plus riches pour les entreprises minières, le gisement s'étend en fait sur tout le plateau Colorado jusqu'au très célèbre Grand Canyon, bon, qui n'est pas une montagne, c'est une gorge, enfin un défilé. Mais cela pose des questions assez similaires, donc je voulais dire un mot là-dessus. Au printemps dernier, le tribunal du district de Phoenix a tranché en faveur du service des forêts, autorisant la réouverture de la mine du canyon à côté de la ville de Tucson au sud. Là, on en a une deuxième vers le nord qui n'a pas encore eu l'autorisation de réouverture, mais voilà, ce sont des débats en cours. Alors, on voyage encore un petit peu plus vers le nord dans le Colorado et je vais vous parler du Cheyenne Mountain Complex. Donc, ce complexe est une autre icône de la guerre froide. C'est le North American Aerospace Defense Command and Combat Operations Center, it's a long word, enfin, c'est assez long, qui est devenu opérationnel en 1967. Donc c'est un bunker au cœur du granit de cette montagne qui a été construit comme un centre de défense contre les bombardiers soviétiques. Et puis il s'est lancé dans la recherche aérospatiale, c'est-à-dire la prévention et la surveillance des missiles balistiques et autres attaques aériennes sur l'Amérique du Nord. Donc c'est un centre de surveillance. Là vous voyez l'entrée du complexe. Aujourd'hui, il est toujours utilisé comme un centre d'entraînement et continue à être un symbole des angoisses de la guerre froide et la possibilité d'une annihilation nucléaire, donc d'un conflit nucléaire. Et pour terminer, je vais vous parler du Nevada avec le site de Yucca Mountain. Donc c'est la dernière controverse de l'ère nucléaire, c'est la gestion des déchets radioactifs qui est incarnée donc par cette montagne à 160 km environ au nord-ouest de Las Vegas. C'est un site qui a été désigné comme l'emplacement potentiel d'un site d'enfouissement de déchets radioactifs de haute activité à vie longue en 1987. Et il suscite encore le débat aujourd'hui quant à sa sécurité. Il a été officiellement choisi donc pour recueillir les déchets en 2002, donc les déchets radioactifs de tout le pays. Et il est toujours, encore aujourd'hui, sous le feu des écologistes et des politiques locales à cause du débat par rapport à l'impact que ça pourrait avoir sur l'environnement. Donc on peut aussi noter bien sûr la proximité de cette montagne avec un autre emblème de la guerre froide, c'est le Nevada Test Site, où des milliers de tirs ont façonné des collines artificielles dans le paysage. Bon, là j'ai pas eu le temps de traduire, donc c'est la traduction en direct, hein. Je vous préviens juste. Donc je vais passer au dilemme en fait entre les dangers environnementaux que représentent ces montagnes nucléaires et la sécurité économique que ils peuvent représenter aussi. Donc l'une des priorités principales aujourd'hui, c'est de la gestion des déchets radioactifs. Et d'un point de vue des considérations économiques, le débat fait participer autant des acteurs publics, privés et associatifs. La question est de savoir si ces déchets doivent être stockés dans un entrepôt permanent ou s'il vaut mieux les laisser dans les 131 sites partout aux États-Unis. Donc maintenant que le site a été considéré comme sécurisé à l'automne 2014, les inquiétudes n'ont pas vraiment changé pour les résidents de la vallée et pour les militants qui disent que ça ne sert à rien de contaminer un endroit qui n'est pas encore contaminé et de prendre le risque de transporter cette marchandise dangereuse alors que peut-être qu'on trouvera de meilleures solutions à l'avenir. Donc, en fait, ça reflète la situation autour d'autres sites où les gens de la vallée ont peur des répercussions économiques de cette proximité avec une décharge souterraine des déchets au potentiel assez menaçant. Donc, beaucoup de personnes au Nevada ont l'impression que le Congrès a en fait forcé l'État à accepter le site. Donc, ça pose des questions aussi politiques du point de vue du fédéralisme américain. Je vais citer l'exemple de Ed Goldhart, qui est propriétaire d'une ferme laitière à 20 km de Yucca Mountains et qui pense que le site pourrait stigmatiser, par exemple, sa production de lait bio et toute la vallée dans laquelle il vit, parce qu'il vit dans l'ombre d'une montagne qui est transformée en une décharge nucléaire, aurait forcément un impact négatif sur les activités économiques locales. D'un autre côté, ceux qui sont pour le site peuvent compter aussi sur les bénéfices économiques assez conséquents, c'est-à-dire un projet qui serait responsable de la création de plus de 3 500 emplois et qui contribue de près de 200 millions de dollars à l'économie de l'État. Donc voilà, on a les deux penchants. Et bien sûr, il y aurait d'autres bénéfices à construire les locaux, transporter les déchets, gérer le dépôt une fois qu'il est ouvert, etc. Donc pour des endroits qui ont besoin d'emploi, c'est vraiment très attirant, c'est vraiment très intéressant. Ah, c'est vrai? Bon, bah alors je vais passer tout de suite 5 minutes. Hein. Là, j'ai 12. Hein. Ah bon, bah d'accord. Ouais. Alors je vais passer du coup, je vais reparler un petit peu d'uranium, mais très rapidement. Donc les activités, en fait la question c'est une fois que les opportunités ont été saisies, une fois qu'elles ont disparu, que les gains ont disparu, qu'est-ce qui se passe? On a l'exemple de l'uranium qui est assez adéquat pour parler de cette question. Une fois que les entreprises minières sont parties, bah, elles ont laissé des montagnes de déchets, voilà, des montagnes de poussière qui se fondent dans le paysage. Et en fait, c'est un héritage très toxique hein, qui est très dangereux surtout pour les nations indiennes qui vivent autour de ces sites, qui ont travaillé dans ces mines. Surtout qu'ils sont encore plus exposés aux problèmes parce que leur mode de vie traditionnel, où ils utilisent des sources d'eau naturelles pour se nourrir aussi des animaux qu'ils élèvent et donc qui broutent bien sûr des plantes qui sont contaminées. On a des enfants qui jouent dans les anciennes mines, enfin ça pose beaucoup de problèmes. Encore plus d'un point de vue spirituel pour ces nations qui voient le paysage comme le marqueur de leur histoire, de leur héritage historique. Donc, si vous transformez ce paysage en quelque chose de toxique et de dangereux, ça renverse leur rapport à la terre. Voilà. Alors, je voulais dire un mot d'un nouveau type de tourisme. Qui est un mélange de pèlerinage en fait entre la beauté de l'Ouest américain et les sites du projet Manhattan, les différents sites nucléaires. Et donc c'est un un type de tourisme qui a été qualifié par donc les auteurs de Nuclear Familification comme it was fueled by a mix of cold war nostalgia and morbid curiosity. Donc j'ai pas le temps de traduire, mais en fait je voulais parler de ça par rapport à la façon dont le Cheyenne Mountain Complex est montré dans les médias, donc dans la couverture médiatique. C'est très intéressant. On voit qu'il est présenté comme a mini underground city that can withstand a nuclear attack, an engineering marvel, and one of the safest spots in the world. Donc cette montagne nucléaire est en fait très intéressante parce que ça fait un parallèle avec Yucca. C'est un peu son alter ego. Alors que le premier contiendrait des tonnes de déchets et de résidus radioactifs et donc serait représenterait un risque sécuritaire, l'autre serait en fait un havre en cas de si jamais ces armes nucléaires étaient utilisées, ce serait un site où se réfugier. Donc il y a une espèce de parallèle intéressant là. Alors, en dernière partie, je voulais vous parler de la création en fait de ces montagnes et de l'origine du paradoxe, en parlant de l'Océanus dans les années 50. Au moment d'ouvrir les portes de la communauté secrète, en fait, les résidents ont montré un certain paradoxe. Ils pensaient que leur communauté était très sûre grâce aux grillages, aux gardes, à l'armée. Alors que le laboratoire fabriquait quand même des armes nucléaires et déversait des substances toxiques dans les canyons alentours. Donc, dans un des, il y a un article du New Yorker qui date de 1948 dans lequel un scientifique dit: "It's been so good for the children. They seem much stronger, and they're not as high strung as they were in the city. Those mountains are soothing. They're permanent. Nothing can ever disturb those mountains, except maybe our bombs." Donc c'est un paradoxe assez intéressant entre l'environnement reposant pour élever des enfants et l'idée du travail dangereux du laboratoire. Pour vous donner une idée, il y a aussi donc dans une ville célébrée par les parents pour cet environnement sécurisé, il y avait quelques petits incidents qui ternissent cette image, comme des enfants qui jouaient avec des pièces d'artillerie qui n'avaient pas détonné, comme des bazookas, des douilles, qui traînaient en fait sur Barranca Mesa, qui est maintenant aujourd'hui un quartier résidentiel UP. Et donc on a retrouvé par exemple des enfants qui jouaient avec leurs petits bateaux sur des eaux contaminées au-delà du grillage. Là vous voyez cette photo et donc je voulais vous parler de Bill Jetty qui a expliqué ce que c'était de vivre à Los Alamos à cette époque, mais j'ai pas le temps de lire, donc je vais finir. Donc à partir des années 60, avec la montée des opinions antinucléaires, certains enfants qui ont été élevés à Los Alamos se sont heurtés à des remarques assez négatives quand ils sortaient de la communauté. Et d'ailleurs, cette stigmatisation existe encore aujourd'hui, puisqu'on dit que ces enfants luisent dans le noir. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que le paradoxe est né avec la création de ces sites, parce que en même temps que les gens travaillaient sur des armes radioactives, après ils appréciaient faire du ski, faire de la rando dans le coin, et les communautés qui sont dans la vallée regardent de façon multiplient les contrôles de leur eau. Pour vérifier ce qui rentre, les substances qui rentrent dans les sols. Donc là, vous avez une citation d'un Nuevo Americanos qui disait « Who knows what is working its way down that mountain into our water supply into our soil ?» Donc pour conclure, ces sites nucléaires ont grandi sur la base d'un paradigme paradoxal qui allie la sûreté nationale et une grande menace interne. La création des montagnes nucléaires reflète des questions au cœur de la science nucléaire, un dilemme d'une source d'énergie incroyable mais terriblement dangereuse, ce qui a été qualifié de pacte faustien, et elles sont la représentation physique finalement de ce concept qui ouvre un champ d'analyse de l'histoire nucléaire et de la manière dont on a intégré cette menace nucléaire. Voilà, merci beaucoup.